Est-ce que les personnes aveugles ou malvoyantes rêvent? Si oui, comment le projet Voix rêvée nous donne accès au monde onirique de 8 personnes ayant un handicap visuel? Et pour en parler, j'accueille Réjeanne Bouger, une des créatrices de ce projet original. Bonjour Réjeanne Bouger.
Bonjour à vous.
Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les rêves qui vous fascinent autant? Parce que je lisais sur vous, vous avez même écrit des livres en lien avec les rêves.
Ouais. Mais pour moi, c'est une façon... Ça fait quoi, une trentaine d'années que j'écris? Ça fait une trentaine d'années que j'écris maintenant. Si vous voulez, ça a été pour moi une façon de vaincre ce qu'on appelle la page blanche. En fait, j'ai découvert, si vous voulez, la puissance des rêves pendant une analyse que j'ai faite pendant plusieurs années. Et je me suis rendu compte du potentiel créatif qu'il y avait dans ce matériau-là.
Une analyse avec un psychanalyste?
Avec un psychanalyste, oui, voilà. Et donc, j'ai décidé de rapatrier le processus chez moi en écrivant. Et le matin, pour affronter la page blanche, ben si vous voulez, je commence ma journée en mettant sur papier ce à quoi j'ai rêvé pendant la nuit. Et je fais ça pendant à peu près 2 heures. C'est une manière pour moi de faire comme des gammes, comme un musicien ferait des gammes au piano. Bon, et une fois que je suis réchauffée, ben après ça, je tombe dans mon vrai projet littéraire. Et donc, pour moi, le matériau des rêves est important.
Vous êtes chanceuse, vous vous souvenez de vos rêves?
Oui, mais je pense que c'est une habitude à contracter. Je veux dire, si on se dit, là, avant de se coucher, oui, il faut mettre le processus en branle. Parce que j'ai déjà vu des gens qui me disaient, ah non, moi, je me souviens jamais de mes rêves. Et puis,
moi, je rêve pas, ça, c'est pas vrai.
C'est pas vrai, vous rêvez. Mais non, il suffit de se brancher là-dessus. Et la plupart du temps, les gens, même les gens qui disent ne pas rêver, quand ils découvrent qu'ils peuvent se souvenir de leurs rêves, parce qu'on rêve tous, ils découvrent une sorte de joie, je trouve, intérieure. C'est comme s'ils se branchaient, finalement, à une sorte d'intimité à laquelle ils ne se donnent pas accès. Mm-hmm. Puis on se donne accès à cette intimité-là quand on se souvient de nos rêves.
Et c'est agréable
manière.
Aussi de raconter ses rêves. Ça peut être la première conversation du matin, à moins que ça soit un cauchemar ou quelque chose qui nous trouble vraiment.
Oui, oui. En fait, je pense que les rêves sont surtout intéressants pour soi ou peut-être pour notre chum ou pour la personne avec qui on vit, pour notre analyste. Mais pour le grand public, je ne suis pas tout à fait certaine.
Non.
Mais je trouve que c'est surtout important pour les gens qui font le rêve. Mais bref.
Mais en même temps, les rêves qu'on entend dans le projet Voix rêvée, ce sont des rêves qui sont intéressants, que vous avez eu envie de partager.
Absolument.
Alors, j'allais vous appeler Pauline, je ne sais pas pourquoi. Alors, Réjeanne, comment vous en êtes arrivée à imaginer Voix rêvée?
Ben, en fait, moi, j'ai cogné à la porte du Centre Turbine, qui est un organisme artistique. Yves Amion en était le directeur à ce moment-là. Je lui ai soumis un projet autour des rêves, de manière plus générale. Je voulais aller rencontrer. Je me disais, bon, moi, je connais mes rêves, mais j'aimerais ça connaître les rêves des personnes qui m'entourent. Et en parlant avec Yves, c'est Yves qui a circonscrit, qui a dit, mais les personnes aveugles, ils rêvent à quoi?
Et, quelle bonne question!
Très bonne question, parce qu'on est dans un univers d'images, donc tout ça. Et ça tombait bien parce que j'ai beaucoup travaillé avec la communauté des aveugles et des malvoyants,
La
magnétothèque à l'époque.
Ah, bien vous êtes ici, magnétothèque,
oui,
je sais, vois,
oui,
c'est la même chose.
Mais
à l'époque,
je
parle
de ça, là,
sur René Lévesque.
Non, avant ça même, sur Rue Cherrier.
Oui, oui, tout
le
près
premier
d'ici.
Avec,
oui, oui.
C'était André Hamel qui avait été le fondateur de ça. Donc, je travaillais dans les studios d'enregistrement. Ensuite, à l'INCA, où j'ai rencontré d'ailleurs Anne Jarry, qui est une des participantes du projet. Alors, je connaissais un peu la communauté, et puis, rapidement. Et là, Yves a dit tout de suite, ben oui, OK, intéressant, mais il faut mettre du sonore là-dedans. Et là, c'est là aussi où Chantal Dumas, ma coéquipière, s'est jointe...
au projet, qui est une artiste sonore.
Absolument, oui, oui.
Alors, expliquez-nous en quoi consiste ce projet.
Ben, il fallait aller à la rencontre de personnes aveugles ou malvoyantes, idéalement des gens qui avaient un handicap un petit peu différent. Mm-hmm. Les gens pensent toujours, ont beaucoup de questions par rapport aux gens qui sont aveugles de naissance, mais comme vous le savez, les aveugles de naissance, il n'y en a plus tellement maintenant.
Et, donc, il y en a un dans votre projet.
Il y en a un dans mon projet. Il y en a un qui est presque un aveugle de naissance. Parce
à
que
deux ans.
Oui, c'est ça, François Côté. Donc, il y en a très peu. Donc, la plupart des gens malvoyants ou aveugles ont quand même déjà vu. Mais donc, on a fait un échantillon, si vous voulez, qu'on voulait le plus représentatif possible de la palette des handicaps. Et là, Chantal et moi, on est allés à la rencontre de ces personnes-là pour que, oui, ils nous racontent un rêve. Et là,
vous les avez trouvés comment?
Ben, écoutez, c'est un peu un réseau, hein. Il y a eu des efforts faits. Chantal en a trouvé plusieurs de son côté, mais à partir du moment où on trouve une personne, souvent, elles ont un réseau, elles connaissent d'autres personnes. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Il faut dire qu'on était en pleine pandémie. Ça a été un petit peu difficile parce que, bon, il fallait approcher ces gens-là quand même. Moi, je voulais qu'on les rencontre aussi dans leur intimité, dans leur maison, pour voir, parce que moi, je voulais faire un portrait écrit. Chantal a fait un portrait sonore de leur rêve, mais moi, je faisais un portrait écrit, donc je voulais avoir une idée de leur
environnement,
de leur quotidien.
En plein confinement, c'est pas nécessairement évident.
Oui, c'est ça.
Mais, comment vous avez procédé?
Ben, ça s'est fait. Ça a pris plus de temps probablement que si on
avait des masques.
Avec des masques, et puis oui, on a fait ça dans les règles de l'art, mais on l'a fait.
Alors, comment ça fonctionne, là? Parce que vous avez eu l'idée aussi d'un site Internet.
Bien, en fait, c'est plus qu'un site Internet. C'est une œuvre, on appelle ça une œuvre numérique artistique. Mm-hmm. Parce que, à partir du moment où on a ramassé le matériel, donc le rêve, de manière sonore, c'est la personne, on peut l'entendre quand on va sur le site, là, de voix rêver.
Oui, il y a profil, rêve sonore et portrait.
Et portrait, voilà. Donc, il y a le matériel sonore, le rêve qui est raconté par la personne. Chantal a fait une capsule sonore autour de ça. Ensuite, il y a le portrait que j'ai fait, qui est relativement court, mais pour décrire un peu, pour qu'on ait une idée de qui est là.
Avec une autre voix.
Avec une autre voix, oui. Il s'agit d'une voix de comédien et de comédienne par la suite. Oui, puis c'est en français et en anglais, hein, aussi.
Oui,
c'est,
oui.
C'est bilingue.
C'est important pour vous que ça soit bilingue?
Ben, on voulait rejoindre une communauté plus grande, oui.
Ouais.
Oui. Parce que, d'une part, vous savez, il y a très, très peu... En fait, Anne-Jari nous disait qu'on est le premier projet artistique avec un site où c'est pleinement accessible aux personnes handicapées visuellement, parce que, vous le savez probablement, hein, au Québec, il n'y a pas de loi qui rend les choses... Bon, et ce qu'on trouve ici, c'est souvent des sites gouvernementaux ou des sites institutionnels où les personnes aveugles peuvent avoir accès, mais des œuvres artistiques, il n'y en avait pas. Alors, on est quand même... une première à cet égard-là, donc...
Est-ce qu'il y a eu des défis à surmonter Bon, vous avez parlé de la pandémie, mais ces personnes en situation de handicap visuel,
ouais.
De les approcher, de les convaincre aussi de faire partie de ce projet-là en se confiant sur leurs rêves, c'est quand même quelque chose d'assez intime, on le disait tantôt.
Oui, vous avez raison. Bien, je présume qu'on était quand même rassurantes, Chantal et moi, quand on les rencontrait.
Et convaincantes.
Donc, non, finalement, il n'y a pas eu, si vous voulez, d'écueil très important. Les écueils ont été beaucoup sur le plan technique par la suite. Hein, pour faire le fameux site pleinement accessible aux personnes handicapées visuelles, ça a été un défi...
Un défi immense. Ça a été quoi les principales difficultés?
Ben, en fait, c'est qu'on travaillait avec une boîte qui était Folklore pour mettre ça sur un site. Mais là, on a eu des consultants en accessibilité numérique donc qui se sont joints au projet parce que forcément, c'est des choses très, très spécifiques, spécialisées. Donc, il y avait des gens... on a eu des contacts, on a engagé des gens. Mais il y avait quand même ces deux mondes là, qui s'entrechoquaient, c'est-à-dire le monde des graphistes, des gens qui voulaient faire quelque chose, et le monde des personnes handicapées visuelles qui, pour avoir accès à ça, ben il fallait plus penser en termes de couleurs, d'images. Ça a été vraiment un énorme défi de ce côté-là qui a fini par être relevé, mais je vous dirais que la partie du projet qui a été la plus laborieuse ou la plus difficile, ça a été celle-là.
Est-ce que c'était stimulant ou ça a généré d'autres émotions moins positives?
J'ai pas été parmi, si vous voulez, moi j'étais pas, je suis pas la je suis pas celle qui était vraiment, disons...
La chef
de ces opérations-là. Il y avait des gens à Turbine, dont Sophie Bisson, qui était extraordinaire pour faire les liens entre, justement, ces deux univers-là qui étaient d'une patience d'ange, parce que, bon, mais qu'est-ce que c'était votre question?
Je me demandais si c'était plus stimulant ou plus, je sais pas moi, ça générait des émotions peut-être plus négatives, de la frustration, on se dit « Oh, il comprend rien, elle comprend rien
». Il y a eu tout ça, je pense. Ça a été à la fois stimulant, puis à certains moments un petit peu désespérant ou décourageant, mais comme
Faut
je vous dis…
prendre le temps.
Oui, les gens en place… de l'équipe, c'est ça, de Turbine et de Folklore, bon, les gens ont fini par, par trouver la façon de s'arrimer et puis de rendre vraiment ce site-là accessible. Mais ça a
c'était l'objectif.
Ben oui, c'est sûr que c'est l'objectif.
Et qui sont les 8 rêveurs et rêveuses? Parce qu'il y a des femmes aussi.
Oui, il y a des femmes. Il y a peut-être même plus de femmes que d'hommes dans mon souvenir. Alors, il y a Anne Jarry, Selma Quidry, là, vous allez, Marie-Christine Ricciolo, Sherry Wallace.
Oui, elle est de mémoire. Là.
Attendez, il y a Nathalie, j'oublie son... Nathalie, est-ce que c'est Chartrand? Là, je suis en train d'oublier
oui,
son nom.
Oui, Nathalie Chartrand, vous l'avez bien.
Alors voilà, alors il y avait Josué Coudé, François Côté et Stéphane Frigon.
Oui.
Hein? Stéphane Frigon.
Alors Selma, voilà. François, Anne, Josué, Marie-Christine, Nathalie, Sherry et Stéphane.
Voilà, je pense que j'ai oublié personne.
Qui sont tous, il y a des âges différents, dans la cinquantaine, soixantaine, trentaine. Oui. Je pense que la plus jeune a 31 ans.
Oui, c'est Josué. Marie-Christine. Oui.
Ah, Marie. Josué Coudé,
ah, Josué peut-être un peu plus jeune, oui, effectivement. Oui. Josué qui est un aveugle de naissance.
Et qu'est-ce qu'il, à quoi il rêve? Qu'est-ce qu'il voit?
Ben, en fait, à quoi il rêve, c'est-à-dire que leur rêve, c'est un peu comme pour les voyants, est constitué des sensations qu'ils ont dans leur journée. Donc, ce sont des rêves souvent pleins de sons. Oui, il y a des images aussi, mais c'est quand même, c'est leur réalité, je veux dire, qu'ils transportent dans leur rêve. En même temps que je me souviens d'avoir déjà eu une discussion avec Anne Jarry il y a plusieurs années qui me disait, bon, au fur et à mesure que quand quelqu'un perd la vue, les couleurs finissent par s'estomper aussi un peu dans les rêves. Mm-hmm. Mais l'importance, comme pour Marie-Christine, je me souviens, Marie-Christine nous a dit... cette belle chose en nous disant, bon, j'ai réalisé que j'étais vraiment aveugle quand j'ai rêvé à ma canne blanche, par exemple. Où elle s'est rendue compte aussi que dans un de ses rêves, le sens du toucher devenait de plus en plus important. En rêve, elle touchait comme des couvertures. Donc, tout ça. Donc c'est leur expérience sensorielle qui se retrouve finalement dans leur rêve.
Mm-hmm. Il y en a même une personne, je pense que c'est Selma qui voit
oui.
quand elle rêve.
Il y en a beaucoup. Hein. Et bien, il y a plus que Selma. Il y a Nathalie aussi. Et Nathalie disait, dans mon rêve, je vois. Et je me dis dans mon rêve, mais ça se peut pas. Je sais que je vois pas. Comment ça se fait que je vois? Bon, c'est... Et puis, oui, il y a Selma aussi qui dit, ben je conduis une voiture, mais c'est pas possible. Je vois pas. Je peux pas conduire. Je peux pas conduire une voiture. Donc, il y a cette... Oui, bien sûr que ça s'arrime aussi à des choses passées. Et bon, il y a Nathalie aussi, ça, c'est une des choses, je pense, qui m'avait le plus émue.
Qui est massothérapeute.
Oui, voilà, qui est à l'association, qui dirige l'association sportive, qui, elle, voit...
L'Association sportive des aveugles du Québec.
Voilà, et qui, elle, voit la figure de son copain en rêve, mais en fait, elle ne l'a jamais vu. Et elle se dit, au réveil, pendant son rêve, elle se dit, ben il faut absolument que je m'en souvienne, que je me souvienne de quoi Luc a l'air, mais au réveil... Non, elle s'en souvient pas, mais je trouvais ça particulièrement touchant.
C'est ça que j'allais vous poser comme question. Qu'est-ce qui vous a le plus ému ou étonné dans le projet?
Ben des
choses comme ça,
des
situations comme celle-là.
Des choses comme celle-là, ouais, évidemment, ouais. Le quotidien de tous ces gens-là aussi.
Et aussi, il y a quelqu'un, il y en a un, c'est Anne Jarry justement, qui dit « Les personnes aveugles, les malvoyantes sont toutes uniques ».
Absolument.
C'est important de ne pas toutes les mettre dans le même bateau. Et on s'en rend compte en rencontrant, justement, en les écoutant aussi à travers ce projet-là. Est-ce que ça a été un processus qui a duré quoi, 2 ans?
Peut-être presque 3 ans avec la pandémie, là, si on
ouais.
bon, oui, à peu près.
Est-ce que vous êtes tous rencontrés dans le processus créatif? Comment ça s'est passé?
Bien, il y avait... Chantal et moi, on a travaillé toujours ensemble, mm-hmm. Pendant tout le projet. Ensuite, ben, comme je vous dis, il y avait une fois certains éléments complétés. Bon, on se rencontrait avec des consultants ou avec les gens plus du graphisme pour mettre tout ça ensemble. Il y a eu beaucoup de zoom, beaucoup de zoom.
Oui. Et est-ce que vous pensez, ben moi, je peux vous dire que oui, là, mais en général, est-ce que vous pensez que ça va intéresser aussi les gens qui ne vivent pas avec un handicap visuel, le site que vous proposez?
Ben,
projet numérique artistique que vous proposez?
Oui, je crois. Ben, beaucoup de gens ont la question naïve et spontanée qu'Yves Amiot a eu au début du projet en disant « À quoi rêvent les personnes aveugles? Mm-hmm. » Je pense que c'est une question que tous les gens se posent. Et en même temps, ça renvoie...
Ça pique notre curiosité.
Ça pique la curiosité. Et en même temps, ça renvoie les gens aussi à leur propre univers onirique. C'est ça l'idée aussi. C'est,
ouais.
Bon, là, on parle des rêves des aveugles, mais bon, tout le monde rêve. Mais il y a des gens qui sont aveugles de leurs rêves, si je peux dire. Il y a des gens qui ne se souviennent jamais de leurs rêves. Donc, ça peut aussi écouter les rêves des autres, peut ouvrir une porte pour écouter ses propres rêves, finalement.
Et Régine Bouger, est-ce qu'il y aura une suite à ce projet-là? Est-ce que vous avez envie de le faire avec d'autres personnes? Je ne sais pas, moi, des malentendants? Ou...
Écoutez, pour l'instant, non. Il n'y a pas eu de discussion pour des suites de cet ordre-là. Le Centre Urbain a travaillé avec la communauté des malentendants pour d'autres projets. Mais non, nous, pour l'instant, pour ce qui est des rêves et d'autres communautés, pour l'instant, non, il n'y a pas de...
Alors, si on veut explorer ce site-là, voix-rêver.com, pas d'accent.
Oui, rêver, donc R-E-V-E-E-S, parce que ça s'accorde
oui,
avec
ça s'accorde.
Voix,
oui.
Les voix féminines plurielles. Donc, voilà.
Alors, on invite les gens à découvrir ce projet artistique disponible en ligne qui rassemble les rêves de 8 participants, participantes qui ont un handicap visuel. J'en parlais avec Régine Bouger, qui est une écrivaine,
voilà,
qui a animé aussi plusieurs années à Radio-Canada. Et si vous voulez découvrir son œuvre, c'est facile en explorant le net. L'Allier rêvé, c'est un de vos ouvrages où vous parlez de rêves, notamment.
Merci.
Régine Bouger, merci beaucoup d'être venue dans nos studios, puis bon succès avec ce projet.
Merci à vous.